那是妈的姐姐，哈利路亚。
Lève mes mains en victoire. Célébrons Jésus, roi de gloire. Je m'avancerai vers son trône, jetant à ses pieds ma couronne.
Je lève mes mains en victoire.
Oh, no. Combien c'est là notre prière que ce feu brûle, brûle toujours plus en nous. Un feu toujours plus ardent pour toi. Un feu toujours plus rempli d'amour pour toi. Seigneur, car tu as dit, puisses-tu être ou froid ou bouillant. Mais si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Seigneur, tu ne veux que des bouillants. Ou tu préfères que nous soyons totalement froids. C'est pourquoi, Seigneur, tu nous appelles encore à toujours renouveler notre amour pour toi, à veiller à ce que cette flamme soit ardente, que cette chaleur soit réelle, toujours renouvelée sur l'autel du sacrifice. Seigneur, nous ne voulons pas que cette flamme aille en diminuant au fil des années, mais nous voulons que cette flamme aille grandissant au fil des années, afin que nous ne soyons pas confus et éloignés de toi lorsque tu reviendras, mais que nous soyons heureux et joyeux dans ta présence. Oh, merci Seigneur, à toi la louange et l'adoration de nos cœurs. Pour tout ce que tu veux faire encore ce matin au milieu de nous. Bénis-nous par ta parole, Seigneur. Donne-nous une parole d'édification, d'exhortation et de consolation. Tu connais nos besoins, Seigneur. Inspire-moi selon les besoins de ton peuple. Inspire, Seigneur. Donne une parole de sagesse, de connaissance, de révélation, d'enseignement. Oh, merci, Seigneur. À toi la louange. Et l'adoration de nos cœurs pour tout ce que tu es pour nous. Merci Seigneur. Nous louons le Seigneur encore pour sa présence au milieu de nous. Combien nous avons besoin de rallumer continuellement cette flamme en nous, continuellement. N'est-ce pas vrai? Continuellement, nous devons veiller à ce que cette flamme soit alimentée et que notre amour pour lui ne diminue jamais. Car si notre amour baisse, tout le reste en souffrira. Tout le reste portera des fruits amers. Mais si notre amour pour lui est constamment renouvelé, alors le Seigneur peut nous conduire toujours plus loin avec lui. Que son nom soit béni. Alléluia. J'aimerais qu'on voie ce matin une vérité importante qui intéresse chaque famille, chaque couple, car la vie d'un couple et les relations qu'un couple a, c'est quelque chose de très important. Car ce qu'est un couple, si un couple est en bonne santé, alors l'Église aussi sera en bonne santé. Si un couple est en mauvaise santé dans ses relations, l'Église elle-même sera en mauvaise santé. Donc il est très important que nous puissions réaliser cette vérité, que si nous voulons que notre vie d'Église soit une vie bénie, où l'Esprit de Dieu agit puissamment, nous devons veiller à ce que notre vie de famille soit une vie de famille qui glorifie le Seigneur. Et surtout, je voudrais voir ce matin les relations dans le couple. Les relations dans le couple. C'est là un problème dans beaucoup de vies, pas seulement dans le monde, mais aussi dans beaucoup de foyers chrétiens. Il y a des souffrances, il y a des tensions, il y a des conflits. Et tout cela se ressent lorsqu'on vient dans l'Église. Car on ne peut pas laisser à la maison les conflits que nous avons. Ce qu'on est, on l'amène aussi à l'Église. C'est pourquoi ce qu'un couple est, il l'amène à l'Église. C'est pourquoi il faut veiller à ce que les tensions dans le couple, la maturité du couple, soit quelque chose avec laquelle nous travaillons constamment, pour que lorsque nous venons dans l'Église, nous puissions apporter la bénédiction. Ne l'oubliez jamais. Un couple en bonne santé, c'est une famille en bonne santé. C'est une église en bonne santé. Un couple qui a de mauvaises relations, c'est une église qui a de mauvaises relations. C'est pourquoi nous ne pouvons pas, en venant à l'église, tout à coup, expérimenter des grandes choses quand, à la maison, nous ne veillons pas à cela. C'est pourquoi si nous voulons une vie d'église bénie, victorieuse, où nous avons des bonnes relations l'un à l'égard de l'autre, il faut avant tout veiller à nos relations dans le couple. Car vos relations dans l'Église, mes relations dans l'Église, n'auront que la profondeur ou que mes relations ont avec mon épouse. Si mes relations, mon dialogue, ma relation, mon partage avec mon épouse n'est que superficiel, je n'aurai qu'avec vous, dans l'Église, que des relations superficielles. Et même si apparemment il y a quelque chose de profond, la profondeur dépend de mes relations avec mon épouse. C'est pourquoi c'est là une vérité très importante. En somme, le couple, la famille, c'est un peu l'école où Dieu nous forme, où Dieu nous transforme aussi. C'est là qu'il faut arrondir les angles, vous êtes d'accord avec moi? C'est dans la famille. Il faut savoir arrondir les angles et ne pas abdiquer. Ne pas abdiquer dans la famille. Car si nous avons une vie de famille dans la défaite, nous aurons une vie d'église dans la défaite. Ce n'est pas possible d'être vaincu dans la maison et d'être vainqueur à l'église. C'est impossible. Si constamment on essuie des échecs dans nos relations, dans le couple, et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, alors la vie d'église, votre vie d'église sera un échec continuel. D'où l'importance de veiller aux relations dans le couple. Amen. De veiller à ces relations, c'est vital, mes amis. C'est vital. Car vos relations avec les autres dépendront de votre relation avec votre conjoint. Si c'est en profondeur avec votre conjoint, ce sera en profondeur avec les autres. Si c'est superficiel avec votre conjoint, ce sera superficiel avec les autres. Ça, on ne peut pas faire autrement. C'est pourquoi j'aimerais nous exhorter mutuellement à approfondir nos relations dans le couple et vous donner, disons, sept pensées importantes pour nous aider à être un couple qui glorifie davantage le Seigneur. Et vous savez que les personnes qui s'occupent de mariage, de divorce et tout cela, nous disent dans les statistiques que l'obstacle majeur, le problème majeur dans les couples où il y a des tensions, des conflits, un problème qui revient continuellement, c'est l'égoïsme. L'égoïsme dans le couple est un des problèmes majeurs de tensions, de conflits. Et si on ne les résout pas, ça finit par le divorce. Et vous savez comme moi, maintenant, le divorce, c'est quelque chose qui est là, qui se fait malheureusement trop facilement et qui risque aussi d'influencer les chrétiens. C'est pourquoi nous devons absolument veiller là-dessus. Pourquoi tant de divorces? Pourquoi tant de conflits? Pourquoi tant de problèmes? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'entendre? Et pourtant, on s'aime. C'est ça le problème. Le problème majeur est l'égoïsme. C'est pourquoi si nous voulons approfondir nos relations, nous aimer davantage en profondeur, il faut que le couple soit manifeste de la maturité. Donc la maturité sera la réponse à cet égoïsme qui détruit la bonne entente des couples, qui détruit l'amour, qui détruit la paix dans le foyer et qui est un très mauvais témoignage pour les enfants. Alors la réponse, le problème, c'est donc un esprit de maturité, un esprit de maturité. Alors, j'aimerais qu'on voit ce matin quelles sont les qualités d'un couple mûr, d'un couple qui manifeste de la maturité. Quelles sont ces qualités? J'en ai noté sept ici, et vous pouvez les noter si vous voulez, mais c'est quelque chose de très important. Sept signes qui révèlent la maturité d'un couple. Et vous savez, si vous n'êtes pas marié, vous allez bientôt un jour être marié. Alors il faut aussi penser à cela. Hein? Si vous, il faut vous préparer à l'avance. Il faut se préparer à l'avance. Alors c'est là des vérités qui concernent absolument et les mariés et ceux qui ne sont pas mariés. Alors voyons
Quelles sont donc les qualités d'un couple qui est mûr? D'un couple qui manifeste de la maturité? Alors, d'abord, qu'est-ce que la maturité? Qu'est-ce qu'être mûr? Juste une pensée d'introduction? Une personne, ou alors si vous voulez, une personne égoïste. Qu'est-ce que c'est qu'une personne égoïste? Souvent, en prenant le négatif, le côté négatif, on peut mieux comprendre ce qu'est le positif. Une personne égoïste, c'est quelqu'un qui pense exclusivement à elle-même et à ses intérêts, sans aucune considération pour l'autre. Je répète, une personne égoïste, c'est quelqu'un qui pense exclusivement à soi-même et à ses intérêts, et qui n'a aucune considération pour l'autre et les intérêts de l'autre. Vous voyez, autrement dit, c'est toujours je. C'est toujours tu dois me faire ceci, vous voyez, dans le couple. Les problèmes commencent toujours comme ça. Quand l'autre doit toujours vous faire quelque chose, mais vous ne faites jamais quelque chose à l'autre, jamais. C'est toujours l'autre qui doit céder, et mais vous, rien. Vous êtes un peu le pacha, le patron, vous voyez. Et alors, c'est toujours l'autre qui doit faire quelque chose. Toujours l'autre. Vous voyez, ça c'est une personne égoïste qui pense exclusivement à ses intérêts. Et en somme, il y en a qui se sont mariés, vous ne savez pas pourquoi, pour que l'autre conjoint les rende heureux. Alors, j'ai été malheureux à la maison, ça n'a pas été, c'était, ça n'allait pas, oh, ça a été une catastrophe. Alors, à la maison, ça n'allait pas, on ne s'entendait pas. Alors, et puis je commence aussi à vieillir maintenant, alors il faut que je commence vite que je me marie. Alors, il y en a qui se marient pour être heureux. Ah, si quand je me marierai, alors je vais trouver le prince charmant ou la princesse qui va me rendre heureux. Ou heureux, ce sera beau. Ce sera beau, ce sera beau. Et vous dites, mais on se marie, est-ce qu'on ne se marie pas pour être heureux? Pas du tout. Ah, vous dites, mais c'est pas possible, c'est la première fois que j'entends ça. On ne se... Ah oui, un mariage d'égoïstes, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ça, c'est le mariage des égoïstes. Un couple égoïste se marie pour être heureux. Mais un couple adulte se marie pour rendre le conjoint heureux. On ne se marie pas pour être heureux, mais pour rendre son conjoint heureux. Oh, dites-moi, oulala. Pourtant, moi, oulala, je pense bien souvent à moi. Et c'est parce que tu penses bien souvent à toi, trop souvent à toi, qu'il y a tant de problèmes. Pourquoi tous ces conflits? Pourquoi toutes ces tensions? C'est parce que on n'a pas compris cela. C'est qu'on ne se marie pas pour être heureux, mais on se marie pour rendre l'autre heureux. L'autre heureux. L'autre. Si on a compris cela, beaucoup de choses vont se passer. Alors, allons maintenant, voyons ces caractéristiques d'une personne adulte, d'un couple adulte, d'un mari adulte, d'une femme adulte, premièrement. Une personne mûre s'accepte elle-même telle que Dieu l'a créée. Notez bien cela. Une personne adulte, un mari, une femme adulte, s'accepte elle-même telle que Dieu l'a créée. Telle que Dieu l'a créée. Il y a là une vérité très importante. Combien de fois certains couples arrivent au mariage avec soit un esprit de supériorité, soit un esprit d'infériorité complète. Soit avec un complexe de supériorité, parce que ses diplômes, ses titres et je ne sais quoi. Alors, le conjoint écrase tout à fait l'autre, ou alors on vient au mariage avec un tel complexe d'infériorité qu'on se sent complètement écrasé, on manque de sécurité, et dès que le conjoint dit un mot qui ne nous plaît pas, « c'est pas gentil, c'est pas gentil, tu m'aimes pas !» Et ça commence. Voilà. Ce complexe d'infériorité qui est là nous paralyse complètement et on manque de sécurité. Ce qui fait que la moindre parole négative, c'est une montagne. Une moindre parole, c'est pas grand-chose, mais la moindre parole négative, ça y est. Tu m'aimes pas, c'est pas vrai, c'est pas logique, tu te ressembles à ton père, il fait exactement la même chose, ton père. C'est ça, je vois ton père en toi, et toi je vois ta grand-mère en toi. Et ça y est, on commence à... Voilà. Et tout cela, pourquoi? Tout cela, mes amis, allons à la racine des choses. C'est parce que on ne s'est pas accepté tel que Dieu nous a créés. En Christ, tu dois réaliser que tu es pleinement accepté. En Christ, tout complexe de supériorité et tout complexe d'infériorité disparaissent. Amen. En Christ, tu es pleinement satisfaite. Tu as une sécurité parfaite en Christ. Et si bien que tu dois réaliser qu'avant de demander à ta femme de t'accepter ou de faire quoi que ce soit, tu dois réaliser qu'en Christ, tu es pleinement satisfait. Que en Christ, tu es pleinement heureux. Que en Christ, tu es pleinement accepté. Amen. Tu dois réaliser que cela en Christ. C'est pourquoi, vous savez, un bon père de famille ou un bon mari, c'est avant tout un bon chrétien. Bien souvent, ou une bonne mère de famille, une bonne maman, c'est avant tout une bonne chrétienne. Donc c'est quelqu'un qui d'abord réalise que Dieu l'aime, qu'elle est aimée de Dieu, qu'elle a du prix aux yeux de Dieu, et que devant le Seigneur, nous sommes vraiment quelqu'un qui a de la valeur. Alléluia. Et que désormais, lorsque me mariant, si mon mari ou ma femme ne me donne pas ce que je voudrais toujours, je dois trouver en Christ ma consolation et ma compensation. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup qui se marient et qui ne veulent qu'en leur mari ou leur conjoint tout ce dont ils ont besoin. Mais le mari est un homme et l'épouse est une femme qui est limitée, qui ne pourra jamais tout vous donner. Dans le monde, quand les gens se marient, c'est comme deux sangsues qui se marient. Deux sangsues! Quel résultat avec deux sangsues qui se marient? Dites-moi un petit peu. Et on se marie, alors on se suce l'un l'autre. Donne-moi de l'amour, donne-moi l'affection, donne-moi. Et l'autre fait la même chose, donne-moi. Est-ce qu'un mariage comme ça va durer longtemps? C'est pourquoi ça finit par le divorce, ça finit par des catastrophes. L'un est là pour profiter de l'autre, utiliser l'autre pour satisfaire ses propres besoins. Que quelqu'un ne soit pas chrétien et fasse cela, d'accord, mais en Christ c'est différent. Tu sais que ton mari et ta femme est limité. Tu dois d'abord trouver en Christ ta satisfaction pleine et entière. Amen. Si bien que ce que ton mari ne te donne pas, ce que ta femme ne te donne pas, tu le trouves en Christ. Il y a toujours une compensation dans le Seigneur. Alléluia. Ainsi, tu n'es plus esclave de ta femme ou de ton mari. Ou tu es constamment là en train de demander, quémander quelque chose. Mais au contraire, si spirituellement, tu es en forme, tu réalises que Dieu t'aime, que Dieu t'a accepté, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ, c'est très, très important ta position en Christ. Très important ce que tu es aux yeux de Dieu. Tu dois réaliser que tu n'es pas rien, que tu es aimé, que tu es béni, que tu es accepté, que tu as de la valeur à ses yeux. Alléluia! Et ce qui fait que lorsque tu viens au mariage comme cela, tu ne viens pas pour demander quelque chose à ton mari ou à ta femme, tu viens pour apporter. Et lorsque ton mari ou ta femme ne te donne pas ce que tu veux, toi tu l'apportes. Voyez-vous, en somme, ce que le mari ou la femme doit apporter, ça doit être un bonus. C'est un bonus que Dieu te donne par le moyen de ton mari ou de ta femme. Tu ne comptes pas sur le bonus, mais c'est quelque chose qui t'est donné en plus. Et quand tu vois la chose comme cela, c'est vraiment le signe de maturité. Amen. Tu n'es plus esclave. Tu n'es pas là pour sucer continuellement. En Christ, tu es pleinement satisfait. Alléluia. En Christ, tu es accepté. Et quand tu dois, à l'égard de ton mari ou de ta femme, agir ou faire ceci et cela, tu es là pour donner. Tu es là pour apporter. Et non pas pour constamment sucer littéralement ton conjoint. Aimer. Si tu sais que tu es aimé par le Seigneur, alors plus rien ne t'arrêtera. Même si ton mari ou ta femme ne manifeste pas toujours l'amour que tu voudrais, eh bien, le Seigneur, lui, te comble. Le Seigneur te comble. Et auprès de lui, tu dois trouver la satisfaction totale de ton être. Amen. Ce qui fait qu'après, dans tes relations avec ton mari et ton conjoint, c'est le débordement. Oui, tu vois, tu viens pour apporter. Tu viens pour apporter à ton mari, à ta femme. Quand un couple qui a compris cela, c'est un couple qui expérimente le ciel sur la terre. C'est le ciel sur la terre. Es-tu bien en sécurité toi-même? Est-ce que tu as ce complexe de supériorité qui dit, moi... Ouais, parce que quelqu'un qui manifeste un complexe de supériorité, c'est quelqu'un qui manque de sécurité. Il manque de sécurité, alors il essaye de l'imposer aux autres. Il essaye par la domination. C'est pourquoi certains maris qui dominent leurs femmes, c'est manque de sécurité. Ils manquent de sécurité. Ils manquent d'assurance en eux-mêmes. Ils ne réalisent pas totalement l'œuvre de Jésus-Christ dans leur vie, l'amour de Dieu pour eux, le pardon total. Quand on a compris cela, alors on est une personne mûre. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'as accepté. Je sais que je suis parfaitement justifié. Oh Seigneur, je suis convaincu que tu m'aimes. Amen. Et même si le conjoint ne m'aime pas comme je le voudrais, je suis encore convaincu que le Seigneur m'aime. Et c'est ainsi que personne et rien ne peut m'arrêter. Amen. Ça, c'est un signe de maturité. C'est très important. Deuxième signe, une personne mûre apprend des leçons de ses erreurs. Une personne mûre apprend des leçons de ses erreurs. Voilà encore un deuxième signe de maturité dans la vie d'un couple. Une personne qui n'est pas mûre trouve toujours des excuses pour ses échecs. Une personne qui n'est pas mûre, qui manque de maturité, pour tous ses échecs, il y a une excuse. Voyez-vous ? Tous ses échecs. Ah oui, mais j'ai fait ça, mais c'est à cause de toi. J'ai fait ça, mais c'est à cause des enfants. J'ai fait ça, mais c'est à cause encore de la famille. Voyez-vous ? Ça révèle un signe de peu de maturité, un signe d'enfance spirituelle. Tandis qu'une personne mûre apprend des leçons de ses erreurs. Elle sait que toute chose concourt à son bien et ne se laisse arrêter par quoi que ce soit. Amen. Un couple qui a compris cela, qui fait des erreurs et qui apprend des leçons au travers de ses erreurs, alors c'est un couple qui grandit vers la maturité. Mais si on excuse continuellement ses erreurs, on révèle par là qu'on est un enfant. Donc un couple mûr, c'est quelqu'un qui sait, un couple qui sait reconnaître ses fautes, demander pardon quand il le faut. Demander pardon quand il le faut. Ça, c'est un signe de maturité. C'est pourquoi il vous sera très difficile de demander pardon dans l'église quand à la maison, vous n'avez pas mis en pratique cette chose-là. C'est très important. C'est pourquoi on fait souvent des erreurs, n'est-ce pas vrai ? Et le Seigneur permet ces choses dans le couple pour qu'on puisse se demander pardon. Et se demander pardon, c'est un signe de maturité. Laissez-moi dire une chose. Bien souvent, le mari ne veut pas demander pardon à sa femme parce qu'il pense qu'il va perdre son autorité. N'avez-vous pas remarqué cela ? Mais le mari qui n'a jamais demandé pardon à sa femme n'a pas perdu son autorité. Laissez-moi dire une chose. Il ne va pas perdre son autorité. Il l'a déjà perdu. C'est déjà perdu depuis longtemps. Aux yeux de son épouse, c'est déjà perdu. Un mari qui n'a jamais demandé pardon. Loin de perdre son autorité. Le mari, au contraire, retrouve son autorité. La femme respecte un mari qui sait demander pardon, qui sait reconnaître ses erreurs. C'est un signe de maturité. Vous savez, ça, c'est un point très important. Mais il y a toujours ceux qui sont là. Ah, c'est rien. Oui. Ces erreurs, chaque fois qu'on fait une erreur, on ne reconnaît pas ses fautes. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Jamais. On a la peine à reconnaître. Ça, c'est un signe de peu de maturité. Mais quelqu'un qui est mûr, c'est quelqu'un qui franchement dit à sa femme, écoute chérie, c'est peut-être pas facile, mais il faut y aller, pardonne-moi, là j'ai mal fait, j'ai mal parlé, j'ai mal agi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, pardonne-moi. Et c'est comme cela qu'on entretient l'amour, amen, on se soude l'un l'autre. Et c'est comme ça que le mari aussi garde son autorité dans la famille, à l'égard de sa femme et de ses enfants. Savoir reconnaître ses erreurs, ça c'est un signe de maturité. Si on sait le faire à la maison, on saura le faire dans l'église, vous êtes d'accord avec moi ? Ce sera facile. Et pourquoi dans les églises il y a tant de problèmes ? Parce que l'un ou l'autre accepte de reconnaître ses erreurs. On met toujours la faute sur l'autre, vous voyez ? Toujours. C'est toujours les autres, jamais soi-même. Cela révèle quoi ? Cela révèle qu'à la maison, on n'a jamais appris. Donc cela provient de ce que, à la maison, on n'a jamais appris à reconnaître ses fautes. Voyez-vous, la maison c'est votre école biblique. Ne vous lamentez pas, vous qui n'avez pas fait d'école biblique. C'est la maison,
C'est l'école biblique idéale. Idéale. Alors là, je vous assure, ça c'est l'école biblique pratique qui transforme la vie des étudiants. Alléluia! Alors une personne adulte, c'est quoi? Un mari adulte, une femme adulte, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait reconnaître ses erreurs. Ça fait des miracles dans la famille. Mais que le mari ou la femme jamais n'accepte ses erreurs ou rejette toujours sur l'autre les fautes, alors vous êtes sûr que ça, tôt ou tard, il y aura une catastrophe dans cette famille. Tôt ou tard. Troisième vérité, troisième qualité, troisième signe. Une personne mûre, un mari mûr ou une femme mûre, c'est s'adapter à ce qu'elle ne peut changer. Voilà les signes encore d'une autre maturité. Un mari qui est adulte, une femme qui est adulte, c'est s'adapter à ce qu'elle ne peut pas changer ou qu'il ne peut pas changer dans le foyer. Vous savez, il y a des choses que dans un foyer, à cause des défauts que nous avons tous, qui ne changeront jamais. Bien sûr, l'époux, l'épouse fera tout pour changer certaines choses, mais il y a des choses qui sont là. Vous savez, tout le monde a, votre conjoint a des grandes qualités, mais votre conjoint aussi des petits défauts, des petites habitudes qui vous énervent. C'est ça, c'est là. Et c'est là que la plupart des couples se dressent l'un contre l'autre. Alors le mari, voyant ce petit défaut, cette petite habitude qui l'énerve, alors il ne voit plus que cela, les belles qualités de sa femme qu'il avait remarquées pour la première fois ou après, qu'il avait attirées. Il n'y a plus rien de ça, plus rien, il ne voit plus rien. On a l'impression que sa femme maintenant, c'est ce défaut, cette mauvaise habitude, et alors on est là, on ne voit que cela, on est obsédé par cela et on fait tout pour changer cela. Mais plus on essaie de changer son conjoint, moins on y arrive. Et plus c'est pire. Et écoutez-moi bien. Si vous essayez de changer votre conjoint, vous n'y arriverez jamais. C'est une leçon que beaucoup de couples n'ont pas compris. Vous ne pouvez pas changer votre conjoint. Plus vous essayez de changer votre conjoint, plus ce sera pire. Laissez-moi vous dire une chose, ce sera pire. Qui êtes-vous pour changer quelqu'un? Il n'y a que Dieu qui peut changer quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi? Mais qui êtes-vous pour avoir la prétention de changer quelqu'un? Qui êtes-vous? Quelle prétention! Mais combien disent, mais moi je me marie, je vais bien le changer, ma petite femme là, je vais bien la changer celle-là. Ou alors la petite femme qui se marie, et dire, tiens, mon mari, je vais lui serrer la vis un peu de temps en temps, je vais arriver à le changer. Et elle réalise que c'est pas comme ça que ça marche. Vous savez, dans un couple mûr, adulte, il faut savoir s'adapter à ce que vous ne pourrez jamais changer. Il y a des petites habitudes, des petites choses qui vous irritent. Eh bien, il faut vous adapter. Amen. Ça, c'est important. Au lieu de toujours revenir. Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est tout. Alors, vous n'en sortez pas. Mais une personne mûre, il sait s'adapter. Tu n'es pas parfait, ton conjoint n'est pas parfait. Il y a des choses sur lesquelles tu dois passer par-dessus. Sinon, ce sera toujours la bagarre. De ces petites choses, j'entends bien sûr, ce ne sont pas des péchés. C'est des petites habitudes. Pas des péchés, pas des choses qui déshonorent Dieu. C'est des petites habitudes qui t'irritent toi. C'est peut-être une bonne habitude que ton conjoint a, mais ça t'irrite toi. Toi, tu penses que c'est une mauvaise habitude, ou c'est quelque chose qui t'énerve, mais pour elle, c'est peut-être quelque chose de bien. Ou pour lui. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous irrite, vous. Cela ne veut pas dire que c'est forcément mal. Mais ça vous irrite, vous, ça vous plaît pas, ça vous énerve, ça m'énerve, ça m'agace. Voilà. Et alors, on lutte toujours avec ça. Et ça peut durer des années, des années, des années. Et il y a des couples qui, pendant des années, luttent. Alors, on ne voit plus les qualités, on voit que ça, continuellement. Et puis, on essaie de changer. Non, mais une personne mûre, un mari mûr, une femme mûre, c'est s'adapter à ce qu'elle ne peut pas changer. Ça, c'est une question de sagesse. Et quelle délivrance. Et c'est peut-être là que vous verrez, en acceptant l'autre telle qu'elle est, que vous verrez Dieu faire cette transformation que vous, vous ne pouvez jamais faire. Vous serez peut-être étonné de voir ce que Dieu fait. Amen. Quatrièmement, l'amour est patient. Hein, ce verset, 1 Corinthiens 13, 4, l'amour est patient. Sois patient avec les défauts, avec ces petites choses qui t'irritent, sois patient, l'amour est patient.
Quatrièmement, une personne mûre accepte les épreuves, les désappointements, les difficultés avec calme et sérénité. Je répète, une personne adulte, un mari adulte, une femme adulte, une épouse adulte, accepte les épreuves, les désappointements, les difficultés avec calme et sérénité. Voilà une autre vérité importante. Cette personne mûre, elle réalise que sa vie est entre les mains de Dieu et que Dieu fait concourir toutes choses pour son bien. Romains 8, 28. Ça, c'est un verset que tout couple devrait connaître et mettre en pratique. Romains 8, 28. Qu'est-ce que c'est Romains 8, 28 ? Mais nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà un verset qui peut complètement vous transformer. Alors vous avez bien noté, quatrièmement, une personne mûre, c'est quelqu'un qui accepte les épreuves, les désappointements, les difficultés avec calme et sérénité. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que Dieu utilise tout cela pour notre bien. Mais tandis qu'une personne qui n'est pas mûre, la moindre épreuve, la moindre difficulté, c'est une montagne. C'est « je ne comprends pas, Dieu n'a pas exaucé ma prière, je ne comprends pas, c'est la catastrophe, si ça continue comme ça, je vais tout abandonner. » Regardez-moi ça. Si ça continue comme ça, j'abandonne tout. Ou alors je ne prie plus. Ou je ne viens plus à l'église, ou je ne viens plus à... Oui, la moindre difficulté crée, c'est comme une montagne. Pourquoi ? Ça, c'est les signes de peu de maturité. Un enfant, d'accord, vous êtes d'accord avec moi ? Un enfant. Alors moi, les moindres difficultés, c'est une montagne pour un enfant. C'est une montagne. Mais pour une personne adulte, il en sait plus. La personne adulte se dit, mais Dieu va utiliser tout cela pour mon bien. Il va faire concourir toutes ces choses pour mon bien. L'enfant voit la circonstance tout de suite, immédiate. Mais la personne adulte voit plus loin. Regarde avec les yeux de Dieu. Amen. Et il sait que Dieu utilise toutes ces choses pour notre bien, pour nous transformer. On ne comprend pas tout maintenant, mais un jour on le comprendra. Alléluia. Jésus a dit à Pierre un jour, ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras. Pourquoi ? Parce que Pierre était commencé un peu à être découragé, désappointé. Le Seigneur lui parle de la croix, qu'il allait mourir sur la croix. Alors Pierre dit, mais c'est pas possible, comment ça ? Moi, je te suis là, et j'ai quitté mon commerce de poissons, j'ai tout quitté et pour te suivre, et maintenant tu dis que tu vas mourir. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais devenir ? Voyez-vous, Pierre regardait son commerce de poissons. Ses petits problèmes à lui, il ne voyait pas comme Jésus voulait qu'il voie. Et nous aussi, quand nous regardons nos petits problèmes tout de suite immédiats, nous nous décourageons. Regarde plus loin, regarde avec les yeux de la foi. Alléluia. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Ne te décourage pas. Tu auras des épreuves dans la famille, dans le couple aussi. Il y aura des temps de tension et tout. Le problème, ce n'est pas que vous ayez des problèmes dans un couple. Il y en aura toujours. Le problème, c'est que quand on ne résout pas les problèmes, ça, c'est un problème. Il ne faut pas vous décourager parce que vous avez des problèmes dans un couple. Surtout pas. Certainement pas. Le problème, c'est quand on n'arrive pas à les résoudre. C'est quand on n'est pas décidé à les résoudre. Si on n'est pas décidé à les résoudre, alors là, nous manifestons un état d'enfance, de peu de maturité. Et vous savez que quand les enfants jouent, hein, c'est souvent des matchs de boxe, pour rien du tout. Il a pris mon jouet. Il a pris mon chewing-gum. Donne-moi mon chewing-gum. Donne-moi ma poupée. Pour rien du tout. Pour rien du tout. Pour rien. Et malheureusement, certains couples peuvent manifester un tel état d'esprit. Mais un couple mûr accepte désappointement, difficulté avec calme, sérénité. Seigneur. Alléluia, tu es au-dessus de tout. Tu es plus grand que mes problèmes. Tu es plus grand que mes difficultés. Tu es plus grand que ceci. Tu es plus grand que tout cela. Ne sois pas esclave de tes difficultés. Dieu est plus grand que tout cela. Ne sois pas esclave de tes échecs. Dieu est plus grand que tes échecs. Alléluia, Dieu est plus grand. Les temps d'épreuve sont toujours des temps de bénédiction. On ne le comprend pas tout de suite, mais tu le comprendras plus tard. Moi, je bénis le Seigneur pour tous les moments difficiles que j'ai eus. Sur le moment, c'était difficile, je vous le dis franchement. Mais je bénis le Seigneur en regardant les circonstances, avec qui que ce soit, avec moi-même, avec mon épouse, mes enfants, avec tous. Je bénis le Seigneur. Il y a eu des moments durs, mais je bénis. Il fallait que je passe par là, j'en avais besoin. J'en avais besoin, je bénis le Seigneur. En aucune circonstance, j'ai dit au Seigneur, il ne fallait pas que je passe par là. Je bénis le Seigneur d'avoir passé par toutes ces épreuves, car j'en avais besoin. Alléluia.
Ça, c'est le signe d'une certaine maturité. Sinon, alors on va faire le choix. Ça, c'était bien, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Alors on fuit ceci, on accepte ça. On s'en sort pas. C'est un état de maturité, d'enfance spirituelle qui détruit la vie d'un couple. Mais nous savons, le sais-tu, que du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Tout chrétien devrait connaître ce verset par cœur. Amen. Mais nous savons du reste. Est-ce que tu le sais? Tu le sais? Est-ce que tu le sais? Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, je ne comprends pas. Rappelez-vous de Joseph. Joseph. Rejeté par ses frères, haï par ses frères. Rejeté. Il pouvait penser qu'il était rejeté par Dieu, mais pas du tout, au contraire. Et quand on l'a jeté dans le fond du puits, vous vous souvenez quand on l'a jeté au fond du puits? Et lui, il avait eu la vision que Dieu allait le placer sur un trône. Alors vous savez, avant d'aller sur un trône, il faut d'abord descendre dans le puits, bien bas. Avant d'être accepté par les autres, par Pharaon et tout le monde, il fallait qu'il soit rejeté par les siens, bien souvent. Avec Dieu, le chemin qui monte, c'est le chemin qui descend. Le chemin de la réputation, c'est le chemin de l'oubli. Le chemin de l'oubli, le chemin où on salit votre nom, où vous passez par pour un infâme. Et quand la réputation est là, vous avez été brisé, tout cela ne compte plus rien pour vous. Vous donnez toute la gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Allons plus loin. Cinquièmement, une personne mûre, qu'est-ce qu'elle fait? Un mari mûr, adulte, une femme adulte. Une personne mûre fait face à ses responsabilités. Ses responsabilités. Proverbe 11, 25 nous dit, Proverbe 11, 25, « L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Regardez-moi cette promesse. « L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose les autres sera lui-même arrosé. » Si tu veux que Dieu t'arrose, tu dois arroser les autres. Si tu veux avoir l'arrosoir de Dieu sur ta tête, eh bien, tu dois mettre ton arrosoir sur la tête des autres. Tu arrêtes d'arroser les autres, eh bien, Dieu dit, eh bien, c'est terminé. Pas d'arrosoir sur toi. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. C'est pas comme ça que ça marche. Arrose les autres. Et ça coulera sur toi tout de suite. Mais Seigneur, j'ai pas le temps. Non, moi, bénis-moi. Arrose. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Arrose les autres. Ça, c'est un signe de maturité. Il trouve sa plus grande joie à bénir l'autre, à aider l'autre. Amen. Ça, c'est un signe de maturité. Le problème majeur dans les couples, c'est quoi? Et dans les églises, par votre conséquence, c'est que chacun pense à soi. Il faut que l'autre fasse toujours vos petits caprices. Et si l'autre ne fait pas tes petits caprices, pas juste. Alors mal. Ça continue comme ça, ça va pas. Si ça continue comme ça, ça va craquer. Ça va craquer, ça va plus. Et voilà, et c'est ainsi qu'il y a tant de tensions. Mais on révèle par là qu'on est gamin, c'est les gamins qui tapent des pieds, c'est pas vrai? Et qui jettent le jouet par terre. Non, mais non, je veux plus, ça fait des mains. Viens ici, les parents l'appellent, viens ici. Tu as acheté le jouet, va d'abord chercher le jouet, amène-le ici. Viens ici, amène le jouet ici. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Parce qu'il est égoïste. L'enfant est égoïste. Quand vous ne faites pas ses caprices, alors vous passez un mauvais quart d'heure. Mais quand vous faites ces quatre volontés, avez-vous remarqué comme un enfant peut-être un ange? Mais pourquoi? Parce que vous lui faites ses quatre volontés. Mais le jour où vous ne faites pas ses quatre volontés, c'est plus un ange. Ça change complètement. Vous êtes d'accord avec moi? Et vous êtes étonné de voir même que votre enfant soit comme cela. Vous dites, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est le même? Tu dois faire son éducation, et Dieu fait notre éducation. Il doit apprendre, et nous devons apprendre à vivre pour bénir l'autre. Amen. Pour encourager l'autre. Gloire à Dieu. Amen. Très important. Et je termine maintenant. Septièmement, une personne mûre produit davantage qu'elle ne consomme. Voyez-vous, une personne adulte, elle produit davantage qu'elle ne consomme. Ça, c'est un signe de maturité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut être plus un producteur qu'un consommateur. Ça, c'est un terme un peu économique. Voilà. Alors, une personne adulte, elle produit davantage qu'elle ne consomme. Autrement dit, Nous devons être des producteurs au lieu d'être des consommateurs. Producteurs au lieu d'être des consommateurs. Pas toujours consommer, réclamer pour soi. Toujours, on consomme, mais on ne produit absolument rien du tout. On n'apporte rien. Ça, c'est un signe d'immaturité spirituelle. Si tu veux que ton couple, que ta vie de famille soit transformée, alors il faut manifester plus de maturité. Amen. Bannis et détruis cet esprit égoïste qui fait que tu abuses de ton conjoint. Et voilà pourquoi il y a tant de problèmes. Ne sois plus un consommateur où tu consommes ton conjoint en réclamant toujours de lui, mais sois un producteur, apporte. Ce qu'il manque dans la famille, apporte-le. Il manque de la joie, apporte de la joie. Il manque de la paix, apporte la paix. Il manque de l'amour, apporte l'amour, apporte. Il manque le pardon, apporte le pardon. Il manque de la joie, eh bien apporte la joie. Apporte, produis. Ne sois pas un consommateur, mais un producteur. Ça, c'est un signe de maturité. Vous dites, oula, mais c'est pas facile ça. Ah oui, c'est pas facile. C'est difficile à la chair, parce que la chair veut toujours faire ses petites volontés. Mais si tu décides à dire, ce n'est pas ce que je veux qui compte maintenant, je veux faire ce que mon Sauveur veut, et je vais être une bénédiction à mon conjoint. Avant d'être béni moi-même, je veux bénir mon conjoint. Je veux l'aider, l'encourager. Et chacun doit le faire. C'est pas un maintenant qui doit dire, écoute, t'as entendu, c'est exactement pour toi. Le mari ou la femme qui dit ça dans son cœur, aïe, heureusement qu'elle est là, ma femme, heureusement que mon mari est là, heureusement, j'espère qu'il a bien entendu et que ça va marcher maintenant. Justement, alors si le mari ou la femme pense cela, elle révèle justement qu'elle est égoïste. Elle révèle justement son égoïsme. Et qu'elle vit justement pour recevoir, ou qu'il vit pour recevoir. Mais au contraire, nous devons dire, Seigneur, me voici, il y a des faiblesses, il y a des erreurs. Mais je veux changer. Je n'ai pas été ce que j'aurais dû être à l'égard de mon mari et de ma femme. J'ai été exigeant, j'ai été une sangsue, j'ai été un consommateur. Seigneur, je veux changer. Je veux être un donneur de sang maintenant et non plus une sangsue. Je veux être un producteur. Je veux donner, je veux apporter. Je veux te glorifier, Seigneur. Je veux manifester de la maturité. Aide-moi, Seigneur. Le Seigneur t'aidera. Je veux arroser et tu m'arroseras. Alléluia. Il n'est pas dit, arrose-moi, Seigneur, et j'arroserai les autres. Ce n'est pas comme ça. Nous, on attend toujours que Dieu fasse quelque chose après. Et que nous fassions le geste après. Non, Dieu dit, arrose et je t'arroserai. Et nous disons, Seigneur, arrose-moi et j'arroserai les autres. Bénis-moi et je serai une bénédiction aux autres. Non. Bénis et Dieu te bénira. Arrose et tu seras arrosé. Fais le premier pas, fais l'acte de foi. N'attends pas quoi que ce soit, agis. Amen. Si tu attends quelque chose de l'autre, tu es esclave de l'autre, tu es esclave. Tu es esclave. Ah, mais j'attends que l'autre fasse quelque chose. J'attends que mon mari fasse quelque chose. J'attends que ma femme, ça fait déjà longtemps, 40 ans que j'attends. Ah oui, tu attends, tu risques d'attendre longtemps encore. Tu risques d'attendre longtemps. Commence. Manifeste la maturité. Une personne égoïste est quelqu'un qui pense exclusivement à ses besoins et à ses intérêts personnels, sans considération pour l'autre. Et une personne mûre, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui pense exclusivement aux besoins de l'autre, à ses intérêts, sans penser à soi. Mais laissez-moi dire une chose, c'est en donnant que vous recevrez. Amen. Vous ne serez jamais perdant. Car celui qui donne sera lui-même bénéficiaire. Alléluia. Alléluia. Donnez et il vous sera donné. Et on versera dans votre sein une mesure serrée, secouée et qui déborde. Alléluia. Donnez et il vous sera donné. Et on versera dans votre sein une mesure serrée, secouée et qui déborde. Gloire à Dieu. Mais pour que ça déborde, avez-vous remarqué, il faut être secoué un petit peu. Ça vous fait du bien de vous secouer, hein, comme on secoue les sacs de pommes de terre ou les sacs de blé dans le temps. Là, je me souviens quand j'étais à Vienne, là-bas, on aidait les paysans, les sacs de blé. Je vous assure, ils les secouaient pour que ça pénètre bien au fond. Alors, mais après, ça débordait. Si Dieu te secoue, c'est parce qu'il veut que ça déborde dans ta vie. Amen. Laisse-toi secouer. C'est ainsi que tu déborderas sur les autres. Gloire au Seigneur. Amen. Alors voilà les quelques signes d'un couple adulte. Les 7 signes. Un couple adulte, plein de maturité. Que le Seigneur nous aide. Moi, le premier, mes amis, je n'ai pas de leçon à vous faire. J'ai tant de choses à apprendre, mais je veux les apprendre. Et je veux glorifier le Seigneur dans ma famille et dans l'Église et dans le monde. Que ce soit là notre prière à chacun. Amen. Que personne ne se laisse arrêter. Ne l'oubliez pas, une personne adulte, c'est une personne qui apprend des leçons de ses échecs. Mais un gamin, un échec est fatal pour lui. Un échec pour un gamin, c'est fatal. J'ai pas réussi, c'est fini maintenant, je passe plus d'examen, c'est terminé. C'est fini. On m'a pas de... J'ai pas trouvé du travail quand je suis allé pour la première fois. C'est fini, je cherche plus de boulot. C'est fini, je fais plus rien. Ça, c'est un gamin qui parle, vous êtes d'accord avec moi? On t'a pas reçu ici? Frappe une autre porte. Dieu t'aidera. Va plus loin, ne te laisse pas arrêter. Que les échecs ne t'arrêtent pas. Apprends des leçons. Et Dieu te t'aidera. Et Dieu te bénira. Ne sois pas égoïste. Ne pense pas à toi-même. Pense aux autres. Pense à ton épouse. Pense à ton conjoint. Pense. Pense. Bénis et tu seras en bénédiction. Donne et il te sera donné. Et on versera dans ton sein une mesure serrée, secouée et qui déborde. Sur ton conjoint, sur tes enfants, dans l'église et dans le monde, partout où Dieu t'enverra. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier pour tes enseignements. Tu ne veux pas que nous restions des enfants toute notre vie. Comme ta parole le dit, que lorsque nous étions enfants, nous pensions comme des enfants. Nous parlions comme des enfants. Mais maintenant que nous sommes devenus adultes, nous avons abandonné tout cela. Seigneur, tu veux que nous grandissions dans la maturité, d'abord dans notre vie de couple. Seigneur, c'est ce que je veux faire. Et je crois que c'est ce que mes chers amis ici veulent faire. Seigneur, c'est ainsi que nous pourrons réellement vivre dans l'harmonie, dans la paix, dans la joie, dans nos foyers, et ainsi expérimenter cette même bénédiction dans l'Église. Alléluia. Et tous ceux qui viendront au milieu de nous, qui ne te connaissent pas, voyant cette paix, cette harmonie, seront touchés dans leur cœur. Oh, merci Seigneur. Nous voici. Nous voulons accepter d'être formés, et cela dans la famille. C'est là que tu fais notre plus grande formation. Les écoles bibliques peuvent nous aider, c'est vrai Seigneur, il ne faut rien négliger. Mais la plus grande formation se fait dans la famille. Et nous ne voulons pas perdre de temps, Seigneur, mais au contraire, utiliser toutes les circonstances pour nous rapprocher de toi et transformer à ton image pour la gloire de ton nom. Amen.